Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, et donc on va lancer cette émission donc de l'Astromag, la première de l'année 2026. Bonne année à tout le monde, oui, bonjour Patrick.
Bonjour Alain, on en profite donc pour souhaiter une très belle année à tout le monde ici, et de très belles observations, j'espère, en perspective, tout au long de cette année 2026.
Effectivement, eh bien oui, nous aussi, hein, moi aussi je souhaite cela à tout le monde.
Alors nous on a commencé, on a fait deux soirées la semaine dernière à l'observatoire. Alors il faisait frais, on va dire même plutôt froid, mais on a eu de très 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 belles images, très belles observations sur Jupiter. Alors je le précise parce que c'est vraiment le moment d'observer cette planète, puisqu'elle elle passe en gros là au plus près de la Terre en ce moment, et elle est très bien placée dans le ciel puisqu'elle est très haute, elle est quasiment au zénith, hein, dans la constellation des Gémeaux. Donc profitez-en, c'est le moment, si vous avez du matériel, des télescopes qu'on vous a offert à Noël et compagnie, de faire vos premières armes pour observer cette magnifique planète.
Voilà, et Jupiter, alors il y a quand même encore un peu de temps, on va dire, oui, que jusqu'au début du printemps, elle sera quand même dans de très bonnes conditions d'observation, et on va la perdre au début de l'été.
Alors pour vous repérer, hein, vite fait, hein, Jupiter, bah, si vous levez les yeux vers le ciel le soir, vous ne pouvez pas la louper, c'est le point le plus brillant, évidemment, quand il n'y a pas la Lune, dans le ciel. Hein, voilà, vous avez Jupiter, un peu plus bas, il y a Sirius, c'est des points qui sont vraiment remarquables dans le ciel en ce moment. Alors Sirius, c'est une étoile, hein, de la constellation du Grand Chien. Voilà.
Exactement, et puis pour continuer un petit peu sur Jupiter, bah, ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est aussi le balai des satellites.
Oui.
Tout au long de...
D'une soirée.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là actuellement Jupiter, eh bien elle s'observe en pleine nuit, mais on a des nuits très longues, Jupiter faisant une rotation sur elle-même en 10 heures, et comme on a quasiment 12 heures de nuit où on peut l'observer dans de bonnes conditions, eh bien on voit la grande tache rouge de Jupiter tous les soirs.
Et oui, on peut s'amuser même, si on pouvait faire de l'imagerie, à pouvoir filmer la rotation complète.
Voilà, et donc on peut l'observer, du coup, la grande tache rouge de Jupiter, soit le soir, soit le matin, voire les deux.
Oui, ah oui, oui, tout à fait. Oui. Et le balai des satellites, c'est toujours aussi remarquable, puisque on a souvent la possibilité d'en voir un passer devant ou derrière, d'observer la tache d'ombre du satellite qui se projette sur le disque de Jupiter, enfin le disque, la sphère, hein, de Jupiter. Tout ça, c'est assez intéressant à observer. On s'en lasse pas.
Oui, entièrement d'accord avec toi.
Voilà, bon, ben on va commencer cette émission en parlant de cette fameuse comète Atlas. Oui. Alors, elle a fait couler de l'encre, tu vas nous en dire un petit peu plus, déjà.
Oui, alors, 3I Atlas, effectivement, c'est une comète un petit peu particulière, puisque quand on regarde la presse un petit peu partout sur Internet, on lit vraiment de tout et n'importe quoi. Alors, elle s'appelle 3I Atlas. Et pour ceux qui ont un petit peu déjà, on avait parlé des comètes et notamment comment on les appelait dans cette émission. Alors, j'ai plus la date en tête. Mais donc quand une comète, hein, elle est dénommée par un C pour comète, son année de découverte, une barre de fraction et un nom, par exemple, généralement son découvreur ou le système qui a permis de la découvrir, par exemple le réseau Atlas, hein, qui permet de...
Ah oui, c'est pas Monsieur Atlas alors qu'il l'a trouvé.
Non, c'est pas Monsieur Atlas, c'est un réseau de télescopes qui permet...
Atlas,
effectivement, de scruter le ciel en permanence et de découvrir ces corps-là. Et donc, elle s'appelle 3I Atlas. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la troisième comète interplanétaire.
Ah, le I, donc.
Le I de interplanétaire. Et donc, Atlas, hein, puisque c'est le système Atlas qui l'a découverte. Et donc, pourquoi ce nom-là ? Eh bien, puisque quand on a commencé à l'observer, on s'est rapidement aperçu, eh bien, qu'elle allait extrêmement vite dans le système solaire, qu'elle ne venait pas du système solaire et qu'elle était externe au système solaire. Alors, ce n'est pas une première, puisqu'il y a eu aussi la très médiatique 1I ou moi, qu'on avait pris pour un vaisseau spatial, etc. Là encore, hein, c'est tout ce que je disais, il y a eu extrêmement de choses, voilà. Bon, mais après, ça aurait pu, hein, on aurait pu, qu'on se pose la question de savoir si c'est un vaisseau spatial. Les scientifiques se la sont posée de manière très sérieuse. Et puis, ils ont rapidement vu bien que c'était...
Il n'y avait pas de hublot et pas de lumière.
Voilà, ça, que c'était autre chose. Donc, et alors... autant la première, hein, donc Oumuamua n'était absolument pas visible avec les instruments amateurs que nous on connaît ou qu'on même on a à l'observatoire d'Anyan. Deuxi Borisov a été très peu médiatisé. Alors je ne sais pas vraiment la raison, mais bon, elle a été moins médiatisée, notamment que Troisi Atlas, qui elle l'a été pour une raison assez simple, c'est qu'elle était soi-disant visible. Avec nos instruments d'amateurs. Alors, s'il y a des amateurs qui écoutent la radio, pour donner le terme technique, hein, elle était aux alentours de la magnitude 10 à 12. Alors, magnitude 12, on est à la limite, hein, de ce qu'on peut observer avec nos instruments d'amateurs. Oui. Alors, on est vraiment à la limite de la détection quand on regarde à l'œil. Alors évidemment, si on fait de la photo, là, c'est complètement autre chose et elle apparaît très bien. Et d'ailleurs, il y a eu des photos magnifiques de Troisi Atlas faites par des astronomes amateurs avec du matériel d'amateurs. Donc oui, en ça, elle était extrêmement intéressante.
Donc, accessible, oui.
Mais là encore, en photographie, beaucoup moins en visuel. Hein. Bon, moi, j'ai essayé de la faire en visuel...
Ben moi aussi, j'ai vu une petite tachouille, en fait.
Voilà, c'est ouais. ça. On a connu mieux comme comète.
C'est clair.
Mais après, par contre, effectivement, on peut quand même se dire, j'ai observé avec mes yeux un objet qui vient de l'extérieur du système solaire.
Alors, tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi? Ça vient de plus loin que le système solaire? Est-ce qu'elle vient d'un autre système solaire? Enfin, pas solaire, stellaire du coup, d'un autre système stellaire, ou est-ce que c'est son orbite qui est tellement hyperbolique qu'elle quitte le système solaire, mais du coup elle y revient?
Alors, bon, on va pas, du coup ça va me lancer de quelles sont les trajectoires des comètes,
voilà,
habituellement.
Oui.
Alors les comètes habituellement, elles viennent du fin fond du système solaire, elles vont être par un effet de perturbation gravitationnelle. On parlait de Jupiter tout à l'heure. Eh bien, c'est une des planètes qui permet de
capter un peu, de déstabiliser,
en fait,
tout ça.
Voilà,
oui.
De déstabiliser un des cailloux au fin fond du système solaire qui va se rapprocher du Soleil, du coup, et le Soleil va ensuite prendre le relais, et on va avoir une orbite qui va être elliptique.
C'est-à-dire que le Soleil la relance, en gros, c'est ça?
C'est-à-dire que Jupiter ou une planète extérieure, hein, par exemple Neptune ou Uranus, va déstabiliser ce caillou.
Il n'était pas en orbite, en fait.
Enfin, il était en orbite très loin, sur une orbite plus ou moins circulaire,
voilà.
Mais qui restait au fin fond du système solaire.
Voilà.
Et par cette perturbation gravitationnelle, il va être capté, on va dire, par cette planète qui va finalement lui donner
l'impulsion,
voilà, vers elle. Et ensuite, eh bien, il va se rapprocher suffisamment du Soleil pour que le Soleil termine le travail et mette ce caillou, cette comète, sur son orbite elliptique telle qu'on la connaît.
C'est ce qu'on appelle une fronde gravitationnelle. Là.
Voilà, tout à fait.
On utilise ça pour lancer les vaisseaux qui doivent partir très très loin.
Voilà, c'est le même principe, sauf que là, il n'y a rien de calculé, à mon avis. Hein.
Oui.
Donc, les ellipses, hein, donc, de ces comètes, eh bien, elles ont un paramètre, hein, orbital qu'on appelle l'excentricité. Plus on se rapproche de zéro, plus le
zéro.
Cercle va être parfait.
Oui.
Donc, c'est par exemple le cas des planètes, hein, qui ont, par exemple, la Terre, à une excentricité quasi, quasi nulle.
Oui.
Voilà, puisque même si c'est une ellipse, hein, ce n'est pas une ellipse parfaite.
Oui.
Et donc, si on arrive sur une excentricité de 1, eh bien, l'ellipse va être tellement grande qu'en fait, elle va s'échapper du système solaire.
Oui.
C'est ce qu'on appelle l'orbite parabolique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la planète va être à une distance, la comète va être à une distance infini, son énergie sera nulle, l'excédent d'énergie sera nul. Alors c'est un cas qui est purement mathématique, et en réalité on va être soit dans un cas bien d'une ellipse fermée, hein, comme les comètes qu'on connaît, soit l'hyperbole. Donc dans ce cas-là, la comète va partir du système solaire. Alors des comètes elliptiques, on en a déjà découvertes et il y en a quand même, alors il n'y en a pas des masses, mais il y en a beaucoup. Par contre, elles venaient de notre système solaire, elles se sont rapprochées du Soleil et comme leur excentricité était supérieure à 1, eh bien, elles ont quitté le système solaire et elles ne reviendront pas dans nous voir.
Donc elles sont perdues dans les...
Ah, celles-ci sont perdues.
Alors
Elles font un passage unique.
Elles deviennent des vagabondes,
Voilà.
elles sont éjectées. Alors du coup, un autre système stellaire pourrait éventuellement capter une de nos comètes.
Exactement.
Et inversement.
Et inversement. Alors c'est là où, en fait, après, c'est difficile de savoir d'où elles viennent exactement, parce qu'en fait, on va les observer finalement sur une portion de leur trajectoire qui est infinitésimale.
Oui.
Et donc, du coup, la marge d'erreur est tellement grande que c'est quand même assez scabreux, même au sens scientifique, d'arriver à prédire d'où elles viennent exactement. Mais on sait qu'elles sont extérieures à notre système solaire. Et ensuite, bah, simplement, dans leur périple, hein, interstellaire, eh bien, elles ont été influées par la force d'attraction du Soleil.
Ouais.
Et elles se sont, du coup, rapprochées de notre étoile.
Ouais.
Et ce qui permet de les observer, mais de manière unique.
Oui.
Troisième Atlas, on ne la reverra plus.
Oh.
Mais par contre, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres.
Oui, d'accord. Ouais. Mais alors du coup, ça a un énorme intérêt, parce que ça permettrait, si on a le temps de pouvoir capter pas mal d'informations, de connaître un peu de quoi elle est faite.
Oui, exactement.
Puisqu'elle vient d'un autre système.
Voilà, exactement. Bon, alors là, je pense qu'il y a pas mal de monde
sur le coup.
Sur le coup. Par contre, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a intrigué. C'est que je me suis dit, mais on a découvert des corps interstellaires comme ça, on n'en découvre que depuis même pas 10 ans. Alors pourquoi pas avant? Et pourquoi on n'en a pas découvert bien avant? Alors c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, dans les années 60-70, on a découvert des astéroïdes notamment, qui étaient, on va dire, très rapides. Alors ils ont souvent été découverts par des astronomes amateurs. Les scientifiques ont dit, oui, bon, alors ça, ce caillou-là, c'est bon, hein, il fait son chemin. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour ces cailloux-là. Donc du coup, il y a très très peu de mesures, peut-être quelques points qui ont été faits par des astronomes amateurs, peut-être avec pas forcément de grande précision. Et donc du coup, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'études et de recherches dans ce domaine-là. Et des articles, hein, que j'ai pu lire, eh bien, on a sans doute... Peut-être...
On est passé à côté, quoi.
Voilà, passé à côté de plusieurs cas comme ceux-là de ces dernières années.
Oui.
Et effectivement, depuis qu'on a les réseaux Atlas, notamment, on a aussi le réseau Ison, hein, on a beaucoup de comètes Ison, on a le réseau Pan-STARRS aussi.
Ben oui. Il y a une très belle, d'ailleurs, Pan-STARRS, il y a 3-4 ans.
Voilà, donc tous ces réseaux-là sont des réseaux qui détectent, hein, justement les astéroïdes, pour justement essayer de détecter ceux qui sont suffisamment dangereux pour la Terre.
Oui.
Et qu'on puisse envoyer Bruce Willis à temps, pour ceux qui ont la ref.
Oui. Du coup, préciser, hein, parce que là, tu as parlé d'astéroïdes, alors qu'on était sur les comètes.
Oui.
Donc, je rappelle la différence. Hein,
vas-y,
c'est,
oui.
Comète, en gros, c'est de la glace, et un astéroïde, c'est de la roche, c'est du caillou.
Voilà, sachant qu'un astéroïde peut être une comète.
Alors, là, il faut que tu me précises tout ça.
Alors, il peut y avoir le cas, par exemple, d'une comète, donc d'une boule de glace, hein, et ça, le cas s'est déjà produit, hein, d'ailleurs. Où la glace va être enfermée sous une croûte de roche.
Ah oui.
Et lorsque cette roche va... quand elle se rapproche du Soleil et que cette roche est suffisamment érodée et effritée, elle peut laisser la glace à nu.
Oui.
Et du coup, ça devient une comète.
C'est une comète déguisée.
Voilà. Alors bon, c'est pas des cas qui sont très fréquents, mais...
C'est comme un Scotch Eggs, pour ceux qui ont
voilà,
la référence.
Voilà, ça s'était déjà produit, je crois, avec la comète Holmes,
ouais.
En 2007, si je me souviens bien. Voilà. Ou alors, voilà, des astéroïdes, par exemple, qui ont très peu de glace en surface.
Oui.
Du coup, ils vont faire quelques passages où la glace... il va y avoir une activité cométaire, pas forcément énorme,
oui.
Pas forcément visible d'ailleurs avec nos instruments. Et puis une fois que cette activité cométaire a disparu, c'est un astéroïde classique.
Et les scientifiques de haut niveau pensent au départ que c'est une comète qui devient un astéroïde, ils le savent, il y a des signes quand même.
Alors souvent, par exemple, on va pouvoir détecter sur un astéroïde une très légère activité cométaire.
Oui.
Donc ça peut laisser sous-entendre, par exemple, qu'il y a de soit très peu de glace qui est exposée, et donc qui va avoir ce phénomène de sublimation, c'est-à-dire passer directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide.
Ça, c'est parce qu'on est dans l'espace,
voilà,
et qu'il n'y a pas d'atmosphère. Okay.
Voilà, et pour ceux qui veulent faire un peu de physique, ils se demandent comment on passe de l'état gazeux, du moins de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Vous irez voir le diagramme de phase d'eau sur Wikipédia, tout est expliqué.
Voilà, avec un bon aspirine.
Voilà. Donc voilà, en fait, à ce niveau-là, hein, effectivement, les astéroïdes, pendant une grande période, en fait, ils ont été un peu les oubliés du système solaire, parce que, en fait, on pensait qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Alors, maintenant, c'est vrai que depuis, quelques décennies, c'est beaucoup moins le cas. Et puis surtout, c'est qu'on a aussi des technologies quand même qui,
oui,
maintenant évoluent de manière assez vertigineuse et qui permettent de détecter et de suivre ces corps de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on pouvait le faire à l'époque. Ou à l'époque, eh bien, c'était du temps de coupole qui était utilisé sur les observatoires. Bah après, ce temps de coupole, c'est, oui, comme tout, il faut le rentabiliser. Si c'est pour observer un caillou qui n'a aucun intérêt, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Alors, quand tu parles de cailloux, tu peux nous donner une idée quand même de la taille de ces cailloux?
Alors, la taille de ces cailloux, les astéroïdes, c'est de l'ordre du kilomètre de diamètre, voire quelques centaines de mètres de diamètre pour les plus petits.
Oui.
Et puis, pour les plus gros astéroïdes ou comètes, hein, c'est la même chose.
Ouais.
On est de l'ordre de la dizaine de kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres de diamètre.
D'accord. Et la limite pour que ça devienne une planète naine?
Elle est assez mal définie.
Voilà, ok.
Elle est assez mal définie, mais on estime que l'équilibre hydrostatique, alors là encore, hashtag Wikipédia, hein, pour avoir les détails, mais en gros, pour que ça devienne un corps globalement sphérique ou au moins patatoïdal,
oui. Oui.
pour l'exprimer de manière plus visuelle. Et donc, on estime que c'est entre 500 et 1000 km de diamètre.
Ah oui, là, c'est vraiment un gros caillou.
Oui, là, ça commence à devenir un gros caillou. Donc, des corps comme ça, on risque d'en découvrir beaucoup, 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 beaucoup plus. Je pèse mes mots, puisque il y a un nouvel observatoire qui a été mis en service l'année dernière, l'observatoire Vera Rubin.
Mmh. Ah,
et
ouais,
ouais. Donc, effectivement, lui pourrait découvrir non pas un corps interstellaire comme ça de temps en temps, mais là, sur l'article de la NASA et du Jet Propulsion Lab de la NASA, ils estiment qu'on pourrait en découvrir quelques centaines par an quand même, hein. Donc,
oui,
à voir, à confirmer, parce que là encore, c'est du temps de coupole, et il va s'intéresser qu'aux objets qui seront intéressants.
Très bien. Alors, Vera Rubin, tiens.
Alors, je n'ai pas révisé.
Ah,
bon. Alors, je te laisse la parole.
Ah, mais moi non plus. Mais je sais que c'était une femme qui a beaucoup apporté dans le milieu de l'astronomie.
Voilà, et de la cosmologie,
et
effectivement.
Et que, du coup, c'est bien qu'on lui ait donné,
ait
donné son nom à un observatoire, parce que, voilà... C'est assez rare encore de nos jours, et surtout à cette époque-là, c'était très compliqué,
oui,
pour que les femmes astronomes soient mises en valeur.
Voilà, alors Vera Rubin, hein, faudra situer, mais je pense que ça doit faire pas très loin de ses travaux, hein, qu'elle a fait. Je pense que c'est globalement un siècle en arrière.
Hein. Oui. Mmh.
Eh bien, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous écoutez l'Astromag, votre rendez-vous astronomique sur Radio Pays d'Hérault. Et donc, on parlait de Jupiter, des comètes.
Voilà, de la fameuse Atlas qui nous a rendu visite. Alors, elle est partie, on ne la reverra plus, tu l'as dit.
Voilà, c'est ça.
Et moi, j'ai entendu parler de certaines choses par rapport à l'ISS, avec des astronautes qui avaient des petits problèmes de santé, apparemment.
Oui, c'est l'actualité, effectivement, spatiale de ce début d'année, puisque, eh bien, il y a la semaine dernière, là, la NASA a fait un communiqué, alors très sobre, hein, ils ne se sont pas étendus sur la question, pour juste indiquer qu'il y avait un astronaute à bord de la Station Spatiale Internationale qui avait des problèmes de santé, qui se posait la question de savoir s'ils allaient rapatrier l'équipage au sol. Et finalement, la décision a été prise, puisque l'équipage, hein, la NASA a pris la décision de ramener l'ensemble de la mission Crew 11, donc Crew 11, hein, pour les Français.
Alors c'est quoi, du coup, ça, c'est le nom de... Il vient d'où, ce nom ?
Alors, le Crew 11, c'est tout simplement, puisque c'est l'équipage qui aborde du Crew Dragon 11.
Ah,
c'est donc la fameuse capsule d'Elon Musk, hein, de SpaceX, qui permet...
Qui remplace les Soyouz ou qui...
Actuellement, oui.
Qui les remplace actuellement, mais les Soyouz sont toujours
Les Soyouz sont toujours opérationnels, entre guillemets. Alors bon,
Oui, ils peuvent pas les lancer, en gros.
Voilà, Soviétiques, hein, les Russes, pardon, ayant eu un petit souci avec leur base au Kazakhstan, ils ne peuvent plus envoyer de Soyouz, mais par contre, celui qui est en orbite, hein, pourra revenir sur Terre.
Peut ramener tout le monde, oui.
Voilà. Ouais. Et donc là, bien, cette capsule, d'Elon Musk, hein, donc de SpaceX, va revenir sur Terre avec un mois d'avance. Pour raison médicale. Alors, on a simplement su que l'astronaute en question... Alors là, on ne sait pas qui est à bord. Hein, ils n'ont pas donné le nom de l'astronaute concerné. Eh bien, était stable au niveau de son état de santé. Et donc, ils ont pris la décision de le ramener à bord, du moins de revenir sur Terre de manière prématurée.
Alors, quand tu dis on ramène tout le monde, on ramène pas tout le monde, on ramène juste qu'une partie de cette équipe, ceux qui sont montés avec cette capsule.
Voilà, c'est-à-dire tous les astronautes qui sont montés sur Terre à bord de la capsule Crew 11 et qui sont partis à bord de l'ISS vont tous revenir en même temps. Alors ça, c'est pour une raison...
Ça représente combien de personnes ?
C'est 4 personnes.
4 personnes. Et du coup, il en reste 2 ou 3.
Alors je crois qu'il va en rester 3 ou 4, je ne sais plus.
Parce que normalement, ils sont 6.
Voilà, 6 à 7.
6 à 7 en permanence.
Oui.
OK. Et du coup, il n'y a pas de remplaçant prévu, là ?
Si.
Ah.
Si. Et Coco Rico.
Ah.
puisque, effectivement, dans la prochaine mission spatiale, qui était prévue pour partir à la mi-février, alors est-ce qu'elle va être avancée ou pas ? Ça, la NASA n'a pas statué. Il va y avoir donc 4 autres astronautes, et notamment une astronaute.
Ah.
C'est Sophie Adenau, une astronaute française de l'ESA, qui va donc partir pour l'ISS, normalement pour une période de 8 mois.
D'accord.
Donc ça va être une période record, hein, puisque normalement les missions sont plutôt de l'ordre de 6 mois en général. Et ça va être donc la deuxième astronaute française, après Claudie Aigneret, à partir à bord de l'ISS.
Alors partent d'où ces équipages actuellement ?
Alors, ils partent de Cap Canaveral, en Floride, avec les bases, la fameuse base de Cap Canaveral de la NASA, la fameuse qui a permis d'envoyer les hommes sur la Lune.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc, ça montre quand même que malgré leur entraînement physique, etc., eh bien, il peut y avoir quand même des urgences médicales à bord.
Oui, je souhaite que ce n'est pas un calcul rénal, parce que ce n'est pas très agréable.
Oui, voilà. Et après, évidemment, hein, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Alors, les astronautes sont, entraînés à faire des gestes médicaux. Alors, évidemment, ils vont pouvoir soigner même des blessures graves, des choses comme ça. Il y a quand même du matériel médical plus ou moins avancé à bord. Par contre, ils ne peuvent pas faire une opération à cœur ouvert à bord de l'ISS. Hein.
Mais ils pourraient, une fracture, quelque chose comme ça, ils peuvent gérer.
Je crois qu'ils peuvent gérer, ouais.
Oui.
Ouais, je crois que les fractures, ils peuvent gérer. Après, évidemment, là encore, c'est des cas extrêmes, hein, et je pense qu'ils vont faire revenir la personne assez rapidement. Mais c'est des choses qui sont gérées. Mais comme quoi, on a beau avoir des astronautes qui sont entraînés, qui ont des bilans médicaux
irréprochables
pendant toute leur formation,
et bien,
on n'est pas à l'abri du cas comme on a aujourd'hui.
C'est une première, non ? Ou ça s'est déjà produit ?
Non, c'est une première d'évacuation sanitaire, hein, c'est-à-dire de ramener un équipage plutôt pour raison médicale, c'est une première. Alors, Après, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de problèmes médicaux en orbite. Hein.
Mais peut-être pas suffisamment grave pour qu'ils en parlent. Ouais.
Alors, il y a quand même eu les cas, notamment sur Apollo, d'un astronaute qui a eu une petite gastro. Avec, vous imaginez ce qui peut flotter en orbite dans la cabine. Bon, ça avait mis une ambiance assez particulière, hein, d'après les astronautes. Voilà, donc ça, c'est des cas qui ont existé. Des astronautes qui ont eu des problèmes médicaux, on va dire, tout un chacun, entre guillemets, ça, c'est des choses classiques. Bon, maintenant, au point de faire revenir l'équipage...
Oui, c'est pas anodin, parce que...
Alors, c'est là où c'est... Bon, on sait pas exactement ce qu'il a, c'est pas anodin, mais son état étant jugé stable, ils ont pu le faire revenir plus tôt, parce que le danger, c'est justement que son état se dégrade,
oui.
Et qu'il soit après embêté pour le faire revenir dans de bonnes conditions.
Alors, oui, parce que c'est pas rien un retour sur Terre, il faut quand même être... être un minimum en forme.
En forme, parce que vous allez encaisser quand même quelques G pendant la rentrée atmosphérique, hein, donc c'est là où c'est, à mon avis, suffisamment grave pour qu'ils prennent cette décision. Et bon, voilà, après, c'est la NASA qui gère les choses. Hein. Mais une évacuation sanitaire comme ça, oui, effectivement, c'est une première.
C'est une première pour l'ISS.
Ouais.
Très bien.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. Alors, je vais juste donner normalement, on termine avec les éphémérides. Alors là, j'ai pas eu le temps de les préparer. Mais si vous voulez, vous pouvez aller consulter le podcast de la parenthèse étoilée.
Oui, que tu gères.
Que je produis, voilà, et où je parle justement des éphémérides du ciel, mois par mois.
Voilà. Alors, on peut, je sais pas si on a encore 5 minutes... On peut juste donner quelques petits conseils d'observation. Moi, je pense, hein, même si on n'a pas d'instrument, à l'œil nu, aux jumelles, puisque au mois de janvier, on a quand même la superbe nébuleuse d'Orion à observer dans la constellation d'Orion. Il y a quelques amas ouverts, les Pléiades, je pense notamment. On va voir l'amas de la Crèche dans la constellation du Cancer ou du Pommier. Hein. Alors, si vous voyez le Pommier, c'est bien, c'est difficile, mais quand on l'a, après, c'est bon.
Voilà.
Donc, tout ça, c'est...
Il y a le double amas de Persée.
Andromède. Voilà, il y a plein de choses à observer en ce moment en hiver. Je dis bien, même avec des jumelles.
Oui.
Parce qu'on oublie souvent de pointer les jumelles vers le ciel, et c'est vraiment, vraiment super pour débuter.
Ah oui, c'est un instrument idéal pour observer le ciel.
Voilà, juste trouver des petites combines pour se stabiliser, soit un pied photo, soit vous appuyez contre un mur, un manche à balai, peu importe.
Une branche d'arbre.
Voilà, tout ce que vous pouvez pour se stabiliser, parce qu'il est là le problème. Et même avec une paire de jumelles, on arrive déjà à voir, à dissocier Jupiter et ses satellites.
Oui, effectivement, oui.
Ça se voit, voilà. Ça se voit. Ça demande d'être bien stable, mais c'est quelque chose...
Et même si maintenant on ne la voit plus, on arrive à distinguer les anneaux de Saturne. Alors on voit quand même encore Saturne, mais
elle commence à être basse.
C'est vraiment des conditions, on va dire, moins idéales que ces derniers mois.
Oui.
Mais aux jumelles, on distingue les anneaux de Saturne.
Alors, il faut des bonnes jumelles, un bon grossissement quand même. Hein. Je crois que... Il faut quand même grossir 15 à 20 fois, hein, pour espérer deviner.
Oui, alors...
ils sont difficiles à voir en ce moment, les anneaux, en plus. Ils sont très, très fins. Ça,
mais vrai, on aurait pu en parler. Moi, j'ai été étonné. Hein, même, je crois que j'avais des 10 par 50 à l'époque. Et en fait, on voit pas les anneaux en tant que tels.
Mais on voit des boursouflures.
Voilà, on comprend qu'il y a quelque chose.
Oui, on comprend que c'est pas comme une étoile.
Que c'est pas un point.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que les anneaux de Saturne, passant, vus par la tranche, ils sont... Ils étaient quasiment, alors ils disparaissent pas vraiment, mais ils sont très très fins. Au télescope, c'est assez joli. Et puis ça n'arrive que tous les 14 ans, donc
il
fallait en profiter. Voilà.
Eh bien, cette émission touche à sa fin, Patrick.
Eh bien, merci Alain pour toutes ces précisions. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. On va déterminer la date.
Voilà.